marché. Waouh, tout ça. Et où je mets mes notes? Ça va être difficile. Très bien.
Une autre particularité, c'est que je me suis déjà endormi dans cette salle. Mais il n'y avait personne qui parlait, je vous rassure. C'était pour un camp, je ne sais pas si ça existe encore, les camps amitié. Voilà. Ça ne s'appelle plus comme ça, hein. Ça s'appelle comment maintenant?
Les camps ADN.
ADN, waouh. Annonce de la bonne
nouvelle. Comment tu dis?
Annonce de la bonne nouvelle. Donc ça a lieu toujours au mois de juillet, c'est ça?
Il y en a un en juillet et en septembre.
Un en septembre, voilà.
Et c'est toujours ici qu'on est logé et qu'on mange.
Voilà, donc j'étais logé ici avec une petite équipe. Et c'est un bon moment hein, pour parler de l'évangile aux étudiants étrangers, en tout cas en Bolivie, puisque eux restent souvent, ne peuvent pas rentrer chez eux, et il y a des gens qui sont prêts à discuter, parce qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à faire en fait. Donc c'est un moment très propice. Ah, comment? Comme ça? Super. Très bien. Alors, j'espère que vous vous régalez, hein. Vous êtes dans le livre des Actes, si j'ai bien compris, depuis le mois de septembre, c'est ça? Pas tout à fait, non? Enfin, depuis quelques temps, vous ne vous rappelez plus quand ça a commencé. On est aussi en train d'étudier le livre des Actes dans mon église. On est bien plus au début, on en est au chapitre 3, donc j'ai dû me projeter en avant pour voir ce qui se passait au chapitre 15. Bon, j'avais un peu mon idée de ce qui se passait. Mais le livre des Actes, en tout cas, c'est un livre que je trouve super. C'est le livre qui nous rappelle, qui nous raconte les premiers pas de l'église sur terre. Est-ce que vous saviez que l'Église, c'était le petit bijou que Dieu avait en réserve depuis le début de l'humanité? Vous avez conscience de ça? Des fois, avec notre Église, on n'est pas toujours sûr. Hein. Je suis pasteur, je sais que l'Église, ce n'est pas toujours évident, mais pourtant, le projet de Dieu, lui, est magnifique. Vous voulez lire juste avec moi Éphésiens 3, et versets 10 et 11, qui nous dit comment Dieu, lui, voit l'Église. Désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu. Dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur. Par l'Église, on connaît la sagesse de Dieu. Waouh ! Et c'est vrai que quand on ouvre le livre des Actes et qu'on commence à le parcourir, bah, ce petit bijou peut nous faire forte impression. Je ne sais pas si vous avez en souvenir ces passages, je ne sais pas si vous les avez étudiés, mais on se demande comment c'est possible. Comment c'est possible que les premiers chrétiens aient mis tout en commun? La première société communiste de l'histoire a eu lieu à Jérusalem. On n'avait plus de propriété, on a tout vendu pour vivre en commun. Et il n'y avait plus de pauvres. Comment c'est possible que les premiers chrétiens étaient prêts à donner leur vie parce qu'ils croyaient en Jésus? Quand on lit les passages du début des Actes, on voit la persécution qui s'abat et on voit comment ces chrétiens sont prêts à tenir ferme. On pense peut-être au témoignage d'Étienne, hein, qui dit tout ce qu'il ne faut pas dire aux Juifs et est prêt à donner sa vie parce qu'il est convaincu que ça vaut le coup. Et pourtant, il n'y a pas que ça dans le livre des Actes. Luc ne cherche pas à édulcorer le tableau. Il y a des passages qui nous parlent de mensonges, Ananias et Saphira, de conflits, Paul et Barnabas, de conflits encore, notre passage de ce soir en est un. Il y a eu des conflits à gérer dans l'Église primitive. Et ça, souvent ça nous ressemble plus, hein, on s'y reconnaît plus. L'Église du 1er siècle de notre ère a eu des problèmes à gérer. Pas que des problèmes provenant de l'extérieur, la persécution, mais aussi des problèmes à l'intérieur de l'Église. Entre chrétiens, et c'est tout l'intérêt, je trouve, du passage de ce soir, dans Acte 15, comment s'y sont-ils pris pour gérer ces conflits, ces désaccords entre eux. Et ces passages qu'on pourrait penser plus laborieux sont pourtant tout aussi extraordinaires. Ils nous montrent, à travers des choses qu'on connaît bien, hein, quelle différence opère la présence du Saint-Esprit, désormais donnée à l'ensemble des croyants. Alors, on a déjà lu ce passage et on se rend compte dans que ce passage commence sur un conflit. Est-ce que vous avez noté ce conflit? Le titre que j'ai donné, c'est justement une église à cœur ouvert. On va voir le cœur de l'église au travers du conflit. Est-ce que vous avez noté de quel conflit il était question au début de ce passage? Vous avez le droit de répondre.
La circoncision.
Une question autour de la circoncision. Ouais. Alors, pour aborder le texte de ce soir, on va se poser des questions classiques dans la résolution de conflits. Quel est le conflit? Comment a-t-il été résolu? Et quel a été le résultat de cette conciliation, de cette résolution de conflit? Et puis à travers ça, on va regarder en quoi ça nous aide peut-être à gérer nos propres conflits, mais aussi en quoi ça nous aide à approfondir notre foi. Alors vous l'avez repris là tout à l'heure dans la petite vidéo, l'épisode où on en est dans le livre des Actes. On est tout de suite après le premier voyage missionnaire. Premier voyage missionnaire, c'est donc ça. Les apôtres sont allés en Chypre, ils sont ensuite allés en Asie mineure, et ils ont annoncé que Jésus était le Messie. C'est-à-dire qu'il accomplissait les Écritures. Et la chose qui est étonnante, c'est qu'il y a des Juifs qui ont cru dans le message, mais il y a aussi des non-Juifs. Et peut-être que 2000 ans après, ça ne nous étonne pas plus que ça, mais je vous assure, c'est étonnant. Les non-Juifs ne connaissent pas les Écritures, ils n'attendent pas de Messie. Ils ont souvent en horreur les Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui ne veulent pas se mêler aux autres. Ils ont leur propre Dieu, alors que l'idée du moment, c'est un peu comme aujourd'hui, la tolérance. On mélange toutes les spiritualités et on en fait un espèce de paganisme où c'est bien de croire en tout ce qui bouge, entre guillemets. Et non, les Juifs ne sont pas comme ça. Eux se mettent à part. Et pourtant, ces non-Juifs, des non-Juifs en Asie mineure, vont croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a quelque chose là qui est miraculeux. Et donc, à la fin du premier voyage missionnaire, Barnabas et Paul rejoignent leur base d'envoi, donc c'est Antioche de Syrie. Vous avez retenu, il y a deux Antioches de Pisidie, et ça, c'est la base d'envoi de Paul et Barnabas. Et ça aussi, c'est une église qui est atypique. C'est le premier endroit où on a appelé les croyants des chrétiens. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, dans cette église, il se rassemblait déjà des juifs et des non-juifs. Alors on ne savait plus comment les appeler. Alors on les a appelés les chrétiens, les petits Christ, parce qu'en fait, ce qui les rassemblait, ce n'était pas qu'ils avaient les coutumes juives, mais c'était qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Alors on comprend mieux justement la confusion provoquée par ces enseignants qui viennent à Antioche. Il est dit qu'ils viennent de Judée et qu'ils commencent à enseigner que si on n'est pas circoncis selon le rite de Moïse, on ne peut pas être sauvé. Alors bien sûr, ils avaient en vue les non-juifs qui étaient dans cette église. Pourquoi voulait-il que ces non-juifs se fassent circoncire? Je ne pense pas que c'était l'objectif de l'opération physique douloureuse pour nous les hommes, mais qu'est-ce que ça signifie la circoncision? La circoncision, c'est le signe qui a été donné à Abraham, donc le père des croyants, mais pour les juifs, le père des juifs, du peuple juif, pour symboliser l'alliance entre Dieu et son peuple. Et plus tard, il a été donné à Moïse une loi qui allait signifier en fait quel était le cadre de cette alliance. Et celui qui se fait circoncire est tenu de mettre en pratique toute la loi. C'est Paul lui-même qui le dit dans l'épître aux Galates. Vous avez ça au chapitre 5 dans vos Bibles. Donc la circoncision, en fait, elle implique une conversion au judaïsme. Si je me fais circoncire, ça signifie que désormais, je dois me soumettre à toute la loi des juifs, à leur rite, à leur régime alimentaire, et que c'est ça qui va me rendre pur devant Dieu. Parce que le but de la loi, c'est notamment, Dieu est saint, moi je ne suis pas saint, mais en accomplissant ça, je vais être pur, purifié devant Dieu. C'était pour ça que les juifs pratiquaient la loi et tout un tas de rituels. Donc on comprend bien la question en arrière-plan de tout cela, c'est en fait, peut-on être sauvé sans devenir juif? Est-ce qu'on peut être sauvé sans se convertir au judaïsme? Faut-il devenir juif pour être au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ? Et j'espère que vous vous rendez compte de l'importance de la question. Ce n'est pas une question de théologien technique. On se dit, oh là là, retournez à vos études bibliques. Non, c'est pas ça. Si ce que disent ces enseignants, cela signifie que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Pour ces enseignants venus de Judée, pour être sauvés, Il faut croire en Jésus-Christ, mais il faut aussi pratiquer la loi. Et c'est pour ça que Paul et Barnabas discernent tout de suite l'enjeu qu'il y a derrière cette question. C'est le salut qui est mis en cause. Alors, le salut, justement. Comment vous définiriez le salut ? Est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition ? Je crois, j'obéis, je suis sauvé. Oui ? Non ?
Non.
Ah ! Ouais, ça c'est une hérésie, hein. Ça, c'est l'évangile. Il y a bien j'obéis, mais il est de l'autre côté de la croix. De l'autre côté de « je suis sauvé ». Ça, c'est l'évangile. Le glissement est subtil, hein. Il ne tient pas à grand-chose, hein. Il suffit de mettre le « j'obéis » de l'autre côté. Et on tombe dans l'hérésie. On tombe dans ce qui n'est pas l'évangile. Le glissement est subtil, mais la maladie, elle est grave. Parce que ça consiste à ajouter quelque chose à l'évangile. C'est l'évangile suivi d'un qualificatif. Et on retrouve ça encore aujourd'hui. On pourrait qualifier ça d'évangile éthique dans nos églises. Ça ressemble beaucoup au problème dont il est question dans notre passage. Il faut progresser dans son comportement, alors, oui, tu pourrais être baptisé. Vous avez déjà entendu ça. Alors c'est bien hein, de former les gens à savoir c'est quoi le baptême. Mais on n'est pas en train de faire passer un test du bon chrétien normalement pour reconnaître que la personne a donné sa vie à Jésus. Par contre, oui, on attend que le fait d'avoir donné sa vie à Jésus va porter des fruits, l'obéissance. On retrouve ça aussi sous d'autres formes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'évangile de prospérité ? On ajoute aussi quelque chose à l'évangile. Pour être croyant, il faut être quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Ça, c'est la preuve que tu es croyant. C'est-à-dire qu'il t'arrive des choses bien dans ta vie. C'est-à-dire que t'as un bon boulot, t'es pas malade. C'est ce qu'on peut appeler l'évangile de prospérité. On ajoute quelque chose à l'évangile. L'évangile seul ne suffit pas pour dire que tu es sauvé. On pourrait appeler ça l'évangile Canada Dry. Vous connaissez le Canada Dry ? Ah ouf, j'ai eu peur. Parce que d'habitude, quand je prends ce genre d'illustration, je passe vraiment pour quelqu'un d'un autre siècle. Petite pause rafraîchissement. Police call ! Police call !
Est doré comme l'alcool. Son nom sonne comme un nom d'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et c'est pour ça qu'il désaltère. Depuis Canada Dry, ce n'est plus l'alcool qui fait les héros.
Une pub des années 80, hein. Vous étiez petit à l'époque. L'évangile Canada Dry, ça ressemble à l'évangile, ça a le goût de l'évangile, mais c'est pas l'évangile. C'est ça le problème. Et oui, tout ça pour ça. C'est un pseudo-évangile, un évangile dépouillé de son origine divine. Et le problème de l'Église de tout temps a été de faire face à ce pseudo-évangile. Le problème a souvent été beaucoup plus de faire face à ce pseudo-évangile qu'à l'anti-évangile qui est en dehors de l'Église. Parce que c'est un problème qui est en son sein et qu'il est très difficile de discerner justement ce qui est de l'hérésie et ce qui ne l'est pas. Voilà la question donc posée au début de notre texte, en acte 15. Une question qui met ni plus ni moins que le salut en jeu. Alors, comment l'église d'Antioche s'y est prise pour résoudre ce conflit ? On a vu Barnabas et Paul ont vivement réagi à la controverse, mais devant le manque de résultats, apparemment, ils n'ont pas convaincu hein, les personnes qui sont venues depuis la Judée. Ils ont fait appel à une aide extérieure, l'église de Jérusalem. Alors pourquoi ils sont allés à Jérusalem, à votre avis ? Sur la question ? Pardon ? C'est l'église mère, c'est la première église, oui, on dit souvent ça, et c'est vrai, hein, l'église de Jérusalem avait une certaine autorité, et c'était difficile de traiter une de ces questions sans passer par l'église, la première église, comme tu le dis. Hein. Mais il y a une autre chose qu'il nous faut remarquer, c'est que les hommes qui sont venus, venaient de Judée. Or, Jérusalem, c'est la capitale de la Judée. Très certainement, en fait, les hommes venaient de Jérusalem. Donc, ils n'ont fait que remonter à la source pour aller voir réellement Qu'est-ce qu'on pensait à Jérusalem? Est-ce qu'on pensait comme ces hommes ou pas? Ils sont allés à la source du problème. Et ça semble très simple dit comme ça, mais je pense qu'on s'épargnerait souvent des difficultés dans nos vies si on allait vraiment à la source du problème, confronter le problème de là où il vient et non pas essayer de résoudre des questions périphériques. Ils sont allés à Jérusalem, là d'où étaient venus ces hommes. Et ils arrivent donc à Jérusalem et ils présentent à l'église réunie au grand complet, donc c'est Paul et Barnabas qui prennent la parole, ce qu'ils ont vécu, en fait, depuis les dernières années, aussi bien dans l'église d'Antioche que dans le premier voyage missionnaire. Et comme très souvent dans le livre des Actes, ils mettent l'accent sur Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est les actes des apôtres, mais en fait, en arrière-plan, en coulisses, c'est Dieu qui agit. Et pour Paul et Barnabas, si Dieu agit parmi les païens, c'est tout simplement qu'il est dans son intention que les païens, les non-juifs, intègrent le peuple de Dieu librement, sans contrainte. C'est un peu dans ce sens qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Mais cette proposition ne retient pas l'adhésion de tous. Hein. Il y a des pharisiens, au verset 5, il nous est dit, qui avaient cru, c'est-à-dire qu'ils avaient cru dans le Messie, mais qui se lèvent et qui disent « mais il faut faire circoncire ces hommes ». Intéressant, non, hein. C'est pas dit que ce sont des faux frères. Il est dit que ce sont des pharisiens qui avaient cru. Ils avaient reconnu que le Messie accomplissait les Écritures. C'est pas des gens qui sont catalogués tout de suite comme des gens qui veulent pervertir l'Église. Ils ont fait une démarche de croire en Jésus. Et pourtant, il semble qu'il n'ait pas la bonne interprétation ou la bonne compréhension. Et ça nous aide à comprendre que les discussions au sein de nos églises, ou peut-être dans un GBU, ce n'est pas une invention de notre XXe siècle, la première église, l'église primitive, avait déjà ce genre de discussion et avait déjà des décisions à prendre, à se positionner sur quelque chose d'aussi important que le salut. Dieu n'a pas donné une réponse exhaustive à toutes les questions des premiers chrétiens. Il a voulu qu'ils se forgent par eux-mêmes leur position sur la question. Je pense que ça a de quoi nous rassurer quand on n'est pas toujours d'accord entre nous. Par contre, la façon dont ils ont géré le conflit, elle a beaucoup à nous apprendre. Alors Luc n'est pas très précis en fait dans sa description de comment ça s'est passé. On comprend que Paul et Barnabas arrivent, s'adressent à l'église au grand complet, et après il est dit que seuls les apôtres et les anciens ont traité la question. Et après on se retrouve de nouveau devant l'église au grand complet. Donc on peut comprendre en fait que oui, il y a eu une espèce de réception officielle, comme quand on accueille des missionnaires dans nos églises aujourd'hui. Dimanche matin, ils ont fait leur exposé, et puis en fait, on n'a pas vraiment peut-être débattu de la question. Et puis après, il y a un groupe de personnes qui a vu, il y a des gens qui se sont levés et qui disent en effet qu'il faut les circoncire, et qui s'est réuni en plus petit comité, et qui a débattu de la question. Mais après, on a encore rassemblé à nouveau l'église, et on a donné les différentes pistes de solutions. Et ça nous aide dans nos conflits ou dans la façon dont on essaie de gérer les problèmes dans nos assemblées ou dans un groupe de GBU, à une certaine humilité. Oui, on a tous, nous qui croyons, le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour autant qu'une unanimité va sortir d'une assemblée comme ça, réunie au grand complet. Il a été nécessaire dans ce cas-là que des hommes en particulier réfléchissent plus précisément sur la question. Par contre, après, on n'a pas décrété du haut de la chair que c'est comme ça et pas autrement. On a une espèce de réflexion à haute voix où tout le monde est impliqué. En fait, il y a un équilibre entre deux positions. Ce qu'on peut appeler un congrégationalisme total. Alors, c'est quoi le congrégationalisme? C'est juste que c'est la congrégation qui décide. On livre l'assemblée à elle-même. Voilà le problème. Bon, enfin, il va falloir se mettre tous d'accord maintenant. On risque d'avoir des discussions et des déchirements qui vont laisser des blessures parfois dures. Et l'autre côté, c'est une espèce de cléricalisme total. C'est-à-dire, non, il n'y a que les experts qui réfléchissent, et après c'est comme ça, et pas autrement, et on ne vous demande pas votre avis. Et là, il y a une espèce d'attitude intermédiaire entre les deux, un équilibre entre, justement, oui, il faut réfléchir en plus petit comité sur ce genre de questions, mais il est important que tout le monde participe, finalement, à la prise de décision. Elle est guidée, certes, mais tout le monde va réfléchir, en fait, à haute voix, raisonner avec les apôtres et les anciens. Et donc, je pense qu'à partir du verset 7, de la deuxième partie du verset 7, au moment où Pierre prend la parole, on a rassemblé à nouveau l'Église et on a codifié comment ça va se passer pour présenter à l'Assemblée la décision des apôtres et des anciens. Donc le premier à parler, c'est Pierre, et son discours s'étend donc jusqu'à la fin du verset 11. Et c'est important que ce soit Pierre qui parle en premier. Contrairement à Paul et Barnabas, il est extérieur au conflit. Il est quelqu'un qu'on est venu consulter. On ne peut pas le préjuger de parti pris de sa part. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il commence par rappeler qu'en fait, les païens, ce n'est pas le dada de Paul. Oui, Paul est parti dans un voyage missionnaire, mais qui est le premier à avoir annoncé l'évangile aux païens? En fait, c'est lui. Il a vécu une dizaine d'années auparavant, un événement particulier que vous avez peut-être lu, avec Corneille et donc, tous ceux qui étaient rassemblés dans sa maison. Et c'est ça dont il fait allusion, ici, dans le verset 7, quand il dit que Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et qu'est-ce qu'il va constater? Il va constater, en fait, qu'à ces païens, ces non-juifs, ces impurs, le Saint-Esprit a été donné comme aux juifs. Et qu'est-ce que ça signifie que le Saint-Esprit a été donné? Dans l'Ancien Testament, il est clair que Dieu ne peut pas habiter parmi les impurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le but de la loi. C'est de dire à l'homme, tu es pécheur, tu es séparé de Dieu. Mais en faisant tout ce rituel, tu te rends compte justement de tout ce qui te sépare de Dieu, et du coup tu atteins une certaine pureté. Hein, on va dire ça comme ça dans le cadre de l'Ancien Testament. Soyez saints, car je suis saint. C'est ça, en gros, le leitmotiv de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si le Saint-Esprit vient habiter parmi les païens, c'est que Dieu a déclaré qu'ils étaient purs, qu'ils ont été purifiés. Non pas par le fait qu'ils ont accompli la loi, mais par le simple fait qu'ils se soient tournés vers Jésus-Christ. C'est ça, la mission, le but du discours de Pierre, c'est de comprendre que les païens ont été purifiés uniquement par le fait qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et la conséquence, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce n'est pas l'extérieur qui compte. C'est ce que Dieu a fait à l'intérieur de leur cœur. Et le discours de Pierre nous rappelle que vouloir faire quelque chose, un tant soit peu, pour mériter la grâce de Dieu, c'est vouloir partager la gloire avec Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Il donne son salut. Et plus nous avançons dans la foi, plus nous comprenons que c'est justement quand nous arrivons à rendre toute la gloire à Dieu que nous arrivons à nous saisir pleinement de la grâce de Dieu. Pierre conclut ainsi son discours. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. C'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. Voilà donc le premier discours de ce concile de Jérusalem. Deuxième discours, discours de Barnabas et Paul. Et là, on s'attendrait à ce que ils soient dans le débat, qu'ils essayent d'expliquer leur position, qu'ils essayent de convaincre l'Assemblée, et pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent à témoigner, comme la veille, je ne sais pas quand est-ce qu'avait lieu la première réunion, et à redécrire les faits, comment Dieu est intervenu devant leurs yeux, là où ils étaient. Paul et Barnabas ne rentrent pas dans le débat théologique. Et ça peut s'expliquer. Ils sont au centre de la controverse. Ce n'est pas eux les mieux placés pour convaincre. Eux, ils sont là pour rapporter les faits et pour dire comment Dieu agit. Par sagesse, par apaisement, ils laissent en fait Pierre et Jacques, qui sont ceux de qui on ne peut pas douter à Jérusalem, expliquer pourquoi les anciens et les apôtres sont arrivés à la conclusion de ce concile. Et donc le troisième à prendre la parole, c'est Jacques. Alors Jacques, c'est pas le même qui a été tué là dans la vidéo de tout à l'heure, qui était un des disciples de Jésus. Celui-là, c'est le frère du Seigneur, a priori. Il est identifié comme tel, en tout cas, dans la tradition. Et c'est le même qui a écrit l'épître de Jacques. Une épître qui met quoi en avant? Vous savez? La foi et les œuvres. Les œuvres. Les œuvres de la foi. Mais il y a des œuvres. Il y a une force forte sur les œuvres dans l'épître de Jacques. Luther a fait ça l'épître de paille parce qu'il ne voyait pas la grâce suffisamment. Et c'est vrai que ça tranche par rapport aux épîtres de Paul. Mais il y a la grâce dans l'épître de Jacques, rassurez-vous. Mais c'est vrai qu'il met vraiment en avant que la foi sans les œuvres, parce que c'est vraiment la foi. Hein. Jacques était particulièrement attaché à la loi juive, et forcément son plaidoyer va prendre une dimension tout à fait extraordinaire, impressionnante. Pierre avait parlé de son expérience, Paul et Barnabas avaient raconté ce qu'ils avaient vu, comment ils avaient vu Dieu à l'œuvre, et Jacques, lui, va faire une espèce de synthèse et confronter tout cela aux Écritures. Ça nous rappelle que les témoignages sont importants, l'expérience compte, mais il nous faut confronter ce que nous vivons, ce que nous entendons à la parole de Dieu. Alors ce qui est un petit peu compliqué, c'est que quand on dit confronter à la parole de Dieu dans le livre des Actes, ça veut dire aller voir dans l'Ancien Testament. Et bon, on va nous sortir un passage là, dans les petits prophètes. Vous connaissez les petits prophètes ? Vous avez déjà lu un des écrits des petits prophètes ? Une mine d'or pour la foi, mais c'est des écrits qui sont peut-être plus difficiles à appréhender, et encore, le prophète Amos dont il est question, vous avez peut-être ça en note dans vos bibles, c'est le prophète que Jacques va citer, c'est un prophète qui défend avec ferveur la justice sociale, quelque chose d'actualité dans nos élections que nous vivons en ce moment, et il y a des messages vraiment très beaux et très forts dans les prophètes, et il y a toujours quelque chose qui nous aide à comprendre ce que Christ a accompli quelques centaines d'années plus tard. Et Amos en fait partie, c'est un de ces petits prophètes, et donc Jacques va citer la fin de la prophétie d'Amos. Amos, il a prophétisé la déportation du peuple hébreu, la grande catastrophe. Le peuple hébreu n'a pas été capable de suivre les commandements de Dieu, pas capable de suivre la fameuse loi dont il est question dans notre passage. Dieu a donc déporté son peuple. Ça s'est passé entre les années 720 pour le royaume du Nord jusqu'à 570 pour le royaume du Sud, à peu près. Et ça, c'est ce qui a provoqué la diaspora, c'est-à-dire l'éparpillement des Juifs parmi les nations. Alors bien sûr, il y a eu un rassemblement à nouveau en Judée, mais il est resté, du fait de ces déportations, des Juifs parmi toutes les nations connues de l'époque, en tout cas dans le bassin méditerranéen et un petit peu plus aussi en Orient. Et que dit donc la prophétie d'Amos ? Alors, c'est dit comme ça dans mon passage. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, je la redresserai. » Donc, la chute de la tente de David, c'est justement cette déportation que les Juifs ont connue. Et Dieu dit donc dans ce passage, par la bouche de son prophète, qu'il va relever la maison de David afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Les ruines de la maison d'Israël seront réparées, le royaume sera rétabli. Et qui va faire partie de ce royaume ? Le reste du peuple parmi les Juifs, oui, le reste des hommes, mais aussi toutes les nations sur lesquelles le nom de Dieu est invoqué. Et là, on comprend le plan merveilleux de Dieu. Les Juifs ont été éparpillés parmi les nations, et en quelque sorte, ce peuple de Dieu éparpillé, c'est pas comme ça dans l'esprit de Dieu, mais fait comprendre aux Juifs que quelque part, le nom de Dieu a pu être comme ça invoqué parmi les nations. Un bout du peuple de Dieu est allé dans toutes les nations. Ça a provoqué qu'au début du livre des Actes, on s'est dit, il faut aller aussi parler de l'Évangile dans ces pays-là. Il y a des Juifs qui doivent entendre la parole. Et ça a provoqué que les païens ont eux aussi entendu la parole de l'Évangile et sont rentrés dans la grande famille de Dieu. C'était justement ce dont Paul et Barnabas venaient de témoigner. Non seulement des Juifs, mais aussi des païens avaient cru en Dieu. Et Jacques en déduit donc que le rassemblement des Juifs et des non-Juifs qui se tournaient vers le Seigneur, c'est-à-dire l'Église, était l'accomplissement de la prophétie d'Amos. La maison de David a été rétablie. C'est ainsi que Dieu avait décidé de restaurer sa maison, c'est-à-dire de créer son nouveau peuple selon la nouvelle alliance. La synthèse de Jacques sera alors qu'il n'y a aucune raison de créer des difficultés aux païens. Dieu lui-même, de toute éternité, avait prévu que se rassembleraient juifs et non-juifs dans un même peuple, sur la base d'un seul critère, se tourner vers lui, la conversion, la foi en Jésus-Christ. Il n'y avait donc aucune raison de les circoncire. Alors, quel fut le résultat de cette fameuse rencontre de Jérusalem, le premier concile de notre histoire, Alors, sur la forme, tout d'abord, c'est un succès. L'unité est préservée, l'unité des conducteurs, l'unité de l'Église. Le conflit avait provoqué le découragement au départ des frères d'Antioche. Et à la fin, on a cette belle phrase que les païens d'Antioche, vous avez ça donc dans les versets 31, le verset 31, après avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement que cette lettre leur apportait. Hein, un conflit peut provoquer un encouragement à la fin, et c'est peut-être même un bon critère pour savoir si le conflit a été bien géré. Le conflit n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qu'est-ce qu'il a créé à la fin? Tout le monde est détruit, ou alors est-ce que finalement on a fait un pas de plus dans la foi? Et tout le monde, dans ce passage, a fait un pas de plus dans la foi. On a formalisé pour la première fois de l'histoire l'évangile d'une manière pratique. C'est quelque chose d'important qui s'est passé là. On a souligné que les apôtres, tout à l'heure, avaient pris un grand soin à gérer ce conflit. Hein. On a vu comment ils s'y sont pris. Et ils sont pris ainsi jusqu'au bout. Ils n'ont pas juste envoyé une lettre, ils ont envoyé des hommes. L'église d'Antioche avait envoyé des délégués. Eux aussi vont envoyer des délégués pour qu'ils lisent la lettre et qu'ils encouragent les frères. Le ton de la lettre aussi est intéressant. Elle montre un certain nombre de précautions. On ne dit pas que les frères qui étaient venus de Judée sont des hérétiques et des faux frères. On dit qu'il y avait un problème. Eux ont parlé en leur nom. On se détache, on ne dit pas qu'on les a envoyés pour vous dire ça. Il y a eu un certain détachement, mais on n'est pas en train de les pointer du doigt. L'éclaircissement sur la question avait besoin d'être fait, et l'Église le reconnaît, mais ce n'est pas l'occasion de régler ses comptes. Ensuite, sur le fond, le Concile aboutit donc à une décision fondamentale pour notre compréhension du salut. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, aucun livre du Nouveau Testament n'a encore été écrit, hein. C'est vraiment la première fois qu'on a formalisé par écrit ce qu'on entendait par être sauvé. Pas besoin de suivre la loi de Moïse, seule la croyance en Jésus-Christ nous purifie. Alors bien sûr, on peut tout de même être un peu surpris parce qu'il y a quelques recommandations. Quelques recommandations étonnantes de la part de Jacques. Est-ce que vous les avez remarquées ? Ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles, ni de viande d'animaux étouffés, ni sang. Et Jacques dira qu'il nous a paru bon, au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Alors j'aimerais faire un petit sondage. Qui ne mange pas de jambon dans la salle? Pas de boudin? Vous savez que le porc hein, est tué par étouffé. A priori, on a un problème, hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on néglige la parole de Dieu de nos jours par rapport à nos habitudes alimentaires? Première vue, on serait tenté de répondre oui. Hein. La parole de Dieu, elle dit, et c'est Jacques qui dit lui-même, ce qui est nécessaire. Alors, c'est quoi la différence entre les recommandations de Jacques et le problème qui est posé au départ? Déjà, Jacques ne dit pas que c'est une condition au salut. Il dit, il serait bien que vous fassiez ça. Il serait bon. Ça n'est pas une condition au salut. Ce sont des recommandations. Il propose en fait ce qu'on peut appeler un bon compromis. Pas une compromission, un bon compromis. En fait, il veut enseigner par ses recommandations, et l'étude biblique de tout à l'heure, hein, j'espère, vous aidera encore un peu plus à saisir cela. Il veut enseigner à tenir compte des autres, et à chercher une attitude qui tient compte de la situation des autres. Et c'est sans doute ça qu'il veut dire au verset 21 par cette phrase un peu étonnante, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le peuple juif a tellement été enseigné sur ces lois, sur ces choses à faire, sur ce rituel de ces habitudes alimentaires qu'on ne va pas pouvoir tout changer comme ça du jour au lendemain. Alors oui, on reconnaît que ce n'est pas une condition nécessaire au salut, mais on vous exhorte à tenir compte que dans l'Église, il y a des gens pour qui c'est dur. C'est dur que vous mangez du porc. Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on n'a pas de souci. Enfin, ça peut être le cas dans certaines assemblées, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que dans la plupart de nos assemblées, ce n'est pas le cas. Donc on n'est pas en train d'être un problème pour l'autre si on a ces habitudes alimentaires-là. Mais Jacques veut exhorter, à cause des frères, par amour pour eux, à cause des frères juifs, abstenez-vous de manger, parce qu'à ce moment-là, ils ne vont pas pouvoir être en communion avec eux, avec vous, pardon. Ça va être trop dur pour eux. Alors bien sûr, il y a des recommandations circonstancielles, et puis il y en a d'autres, comme la conduite sexuelle, qu'on ne peut pas considérer comme recommandation circonstancielle. Ce n'est pas une condition au salut, mais par contre, je pense qu'on peut le garder dans le j'obéis de l'autre côté de la croix, parce que partout dans la Bible, ça nous est présenté comme quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, la conduite sexuelle. Et pourquoi elle est précisée dans cette lettre ? C'est parce que la conduite sexuelle, l'idolâtrie était très liée dans le paganisme. La lettre s'adresse aux païens. Et que justement, on se livrait à des orgies pour honorer les dieux païens. Et donc, c'était quelque chose qui pouvait être perturbant et troubler l'Église. Donc, on veut rappeler que non, ça, c'est pas possible de le vivre. Et donc, il y a un mélange entre des recommandations circonstancielles, tout ce qui est alimentaire, et des recommandations absolues, comme l'inconduite sexuelle, la débauche. Alors, en synthèse, voilà comment on pourrait exprimer les choses ainsi. Jacques plaide qu'on accueille parmi les frères les non-juifs sans autre condition. Mais il exhorte ces non-juifs à tenir compte dans leur comportement qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont justement dans des assemblées où il y a des frères juifs qui ont des habitudes et qui ont pratiqué des choses depuis leurs ancêtres et que, en adoptant ces habitudes, ils vont faciliter pratiquement la communion avec eux. Alors, quels enseignements on peut garder d'un tel texte ? Tout d'abord, on a essayé de le souligner tout au long du passage, il y a une espèce de modèle de gestion de conflit. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre là tous les points et dire « maintenant j'ai un conflit, je vais exactement agir comme cela ». Mais en tout cas, il y a certaines vérités qui sont soulignées à travers ce texte qu'il est bon de garder. Et que justement, on doit veiller sur notre attitude. Le désaccord n'est pas le problème, mais par contre, je dois veiller sur mon attitude en cas de désaccord. Alors j'ai noté un certain nombre de choses pour synthétiser. En cas de problème, remonter à la source. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés à Jérusalem pour confronter vraiment le problème et non pas essayer de traiter quelque chose de superficiel. Traiter véritablement le problème. Et ce n'est pas toujours simple à identifier quel est le vrai problème d'une situation. Paul et Barnabas ont compris tout de suite, derrière la circoncision, que derrière la question de la circoncision se posait le vrai problème du salut. Mais ils auraient très bien pu partir sur des choses beaucoup plus... justement, qu'est-ce qu'on va garder dans la loi juive, qu'est-ce qu'on ne va pas garder, plutôt que de traiter le véritable problème. Trouver un équilibre aussi dans notre façon de résoudre la situation entre impliquer tout le monde, et que ce soit juste deux ou trois personnes qui décident. Aider les autres à comprendre. Pierre a parlé, Paul et Barnabas ont parlé, Jacques a parlé. On a aidé l'Assemblée à comprendre comment on en est arrivé à la situation. Et ça, c'est un des problèmes, des fois, dans nos églises. On a décidé telle chose, mais comme on ne sait pas pourquoi on en est arrivé là, on ne comprend pas. Et on revient dans du légalisme. Parce que si on ne comprend pas, on applique les choses, non pas en conséquence de notre salut, mais comme une condition, quasiment. Et ça, c'est le problème. Utiliser le plus de douceur possible, faire preuve d'humilité. Je ne sais pas si vous avez noté, je n'ai pas eu le temps de souligner ça. Jacques commence en disant « J'ai cru bon ». Il explique son histoire. Il regarde comment l'Assemblée réagit. Verset 22. « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de... » Et donc, il décide d'envoyer des délégués. « Dans la lettre. » Étonnant. « Il a paru bon à nous et au Saint-Esprit. » Vous avez vu le glissement, Jacques, il a commencé en... Voilà, il a pris sur lui. Et c'est simplement en voyant que tout le monde rentrait dans une espèce d'unanimité après coup, qu'ils ont discerné l'œuvre de l'Esprit et pu dire, oui, ce qui s'est passé là, ça vient de Dieu. Être prêt aussi à tout entreprendre pour préserver la paix, pas aux dépens de la vérité, mais faire tous ses efforts pour préserver la paix. Et ça a été pour eux jusqu'à envoyer des hommes dans notre société moderne, petit SMS, petit email. Il y a beaucoup de situations qui deviennent des choses très dures à gérer parce qu'on a tout fait derrière son ordinateur à la place d'aller voir les personnes ou de les appeler, d'avoir un vrai contact avec elles. Et l'église de Jérusalem a fait l'effort d'aller jusqu'au bout. Ils ont envoyé des délégués pour voir est-ce que leur lettre serait bien reçue de la part des frères. Quelques principes de résolution de conflits. Deuxième application, une formalisation nécessaire de l'évangile. On l'a vu souligné. Ce passage nous aide à comprendre c'est quoi l'essentiel de la foi, le salut par grâce. Il y a eu compromis, mais il n'y a pas eu compromission de l'évangile. Les apôtres avaient très certainement compris, hein, avant le concile de Jérusalem, qu'on était sauvés par grâce. Mais le conflit les a aidés à formaliser les choses, parce qu'ils ont été obligés de rentrer les choses dans un contexte. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais ça les a aidés à progresser dans leur foi. Alors j'aimerais vous poser aussi cette question, est-ce que c'est clair pour vous, la foi dans laquelle vous croyez? Est-ce que vous l'avez déjà essayé de la formaliser? Écrivez votre propre confession de foi. Pas 10 pages, mais quelques mots pour dire « Oui, ça, c'est ce que je crois. » Et vous allez voir, quand on écrit, on se pose beaucoup plus de questions que quand on parle. Est-ce que j'arrive à donner une définition claire de ce en quoi je crois? Il ne faut pas négliger ces questions. Elles sont essentielles. Elles nous permettent de progresser et de ne pas stagner dans notre foi. Elles nous permettent de mieux expliquer aussi à ceux qui nous entourent en quoi nous croyons. Alors, je sais qu'ici, au GBU, on aime les études bibliques et que c'est quelque chose qui nous aide, hein, à formaliser les choses, mais ouais, ne te contente pas de l'interfac une fois par 15 jours, mois, semaine. Waouh, pardon, mais même, c'est pas suffisant. N'hésite pas à te former toi-même, hein. T'es pas obligé de tous aller en école de théologie, mais combien de temps on passe, hein, pour apprendre un métier, combien de temps on passe pour formaliser et justement mieux comprendre ce qu'est notre foi. Les apôtres n'ont pas économisé leurs efforts dans ce passage pour que la vérité triomphe. Et la troisième, je ne vais pas la développer, c'est celle que vous allez développer vous-même dans l'étude biblique de tout à l'heure, mais la lettre, hein, nous rappelle que l'amour est au cœur de l'évangile. Oui, on a défini ce qu'était l'évangile, on lui a donné une substance doctrinale, mais on n'a pas oublié que ça allait, dans la pratique, il y avait des frères dans les assemblées qui avaient des habitudes et que les choses n'allaient pas, par un coup de baguette magique, changer comme ça du jour au lendemain. On a donné des précautions pour que justement l'amour puisse continuer entre les frères. Et je trouve ça très beau. Voilà, je vous laisse approfondir ces questions dans le temps qui vient. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose entre, donc je ne suis pas très au fait. Je laisse la parole à notre maître de soirée.